Rafah, principale porte d'entrée de l'aide et des marchandises dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Seuls quelques rares camions passent via le terminal de Kerem Shalom en territoire israélien. Sami Bourchia, Jérusalem.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Regarde, l'Ukraine vit son pire cauchemar. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Le monde n'a pas besoin de ça. C'est bien triste d'en arriver. Regarde, là-bas c'est la peur et l'angoisse. Difficile de vivre sous un toit. Le bruit intense des soldats. Oh, 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 on ne peut pas laisser ça comme ça.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'Ukraine en vous proposant quelques pages de l'ouvrage « Lettres d'amour et de guerre ». Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà lu quelques extraits qui ont été publiés par la journaliste Doan Bui dans l'Observateur. Pavlo et Victoria Matyusha, les auteurs, sont séparés par la guerre et décident de s'écrire. Lui est romancier, elle est agent littéraire. Il s'est enrôlé dans les forces armées, bien que non mobilisable car ayant 40 ans et étant père de famille. Elle est réfugiée à Paris avec les 4 enfants et souhaite avec force qu'il quitte l'armée.
Mon amour, aujourd'hui... Je t'écris juste pour te dire que je t'aime. Tu viens de repartir pour la France et j'ai déjà hâte, tellement hâte de te revoir. Ton séjour fut si bref. Mais qu'importe. Quelle chance que nous ayons tous les deux des problèmes de genoux. Quelle fantastique idée tu as eue de m'inciter à aller consulter ton médecin à Kiev pendant que tu y étais aussi pour tes propres soucis de genoux. C'était romantique de se retrouver dans cette salle d'attente, non? Me voilà de retour dans mon unité. Tu sais, les gars se battent sans relâche maintenant. Je n'arrive pas à garder le fil de toutes les horreurs que j'entends. Quelqu'un a été tué, un autre a perdu ses bras ou ses yeux. C'est la guerre dans toute sa brutalité. En ce moment, mon boulot, c'est d'attendre. C'est une compétence qu'il m'a fallu développer. Je m'entraîne intensément à... attendre, je ne sais même pas quoi, comme dans une pièce de Beckett. Tu connais le dicton de l'armée, hurry up and wait. On se dépêche et on attend. Eh bien voilà, je suis dans ce moment-là, en pause. Et en attendant de revenir à mon job d'instructeur au combat, je suis affecté à plein d'autres missions ponctuelles. Par exemple, je passe des plombes à écrire des rapports. Cela n'en finit jamais. J'appelle ça l'armée de papier. Et cette armée est la plus pénible et vicieuse de toutes. Je déteste cette partie du job de soldat. même si je sais que je suis plus en sécurité maintenant que mes frères d'armes qui sont en première ligne. Quand nous avons le temps, nous nous entraînons tout de même. Hier, j'ai emmené les gars au petit champ de tir. L'un d'eux, Artem, est un hipster typique, un ancien responsable des ressources humaines qui bossait dans l'industrie informatique. Il ne connaît pas grand-chose aux questions militaires, mais il est incollable sur tous les crus de café existants sur Terre, et inexistants certainement. Il s'est vraiment bien débrouillé pendant l'entraînement, même si j'avais l'impression que ça l'emmerdait un peu. Un autre gars, Stas, est un ancien marine. Lui, il est super fort. Et le dernier, Vadim, commercial dans une société de télécommunications, semble de plus en plus apprécier le tir. Et pour le tir à 100 mètres, franchement, il assure. Nous avons également fait du tir au pistolet. Je n'avais que quelques dizaines de cartouches sur moi. La prochaine fois, je ferai en sorte que nous en ayons plus. C'est vraiment dur d'attendre ainsi, sans savoir quelle sera ta mission suivante, sans trop savoir ce qui se passe en première ligne, dans les champs arrosés par les obus et les roquettes qui séparent les positions, ou encore dans les tranchées ennemies. C'est étrange d'être si proche et pourtant derrière, mais c'est mon travail. Je prépare les gars au combat. Je dois m'assurer que les unités qui montent au front soient prêtes. Ensuite, c'est le boulot des autres, en gros. Je viens d'apprendre qu'un de nos officiers a été blessé par une mine antipersonnelle. Il était responsable de l'entraînement dans son bataillon, et nous avons souvent travaillé ensemble. Il a un âge respectable, 58 ou 59 ans. Il aurait pu rester tranquillement chez lui, d'autant que sa femme est handicapée. Mais non, comme tant d'autres, il a rejoint les forces armées. Et maintenant, le voilà gravement blessé. Cet homme a commencé sa carrière dans les forces spéciales pendant la guerre en Afghanistan, celle que l'URSS a menée dans les années 1980, où les pertes étaient 10 fois moindres que dans cette guerre, notre guerre. Tu te rends compte? 40 ans après le début de sa carrière dans l'armée, le voilà blessé. La guerre est atroce, mon amour, et pourtant, c'est là que je veux être, que je dois être, avec mes frères d'armes, même si je sais que tu meurs d'inquiétude de me savoir là où je suis. Je t'aime, mon chat. Je voudrais tellement être avec toi. Je chéris chacun des moments que nous passons ensemble, tu le sais, n'est-ce pas? S'il te plaît, envoie-moi quelques photos de toi et des enfants. Des baisers, Pavlo.
Mon cher Pavlo, je suis si heureuse que tu aies recommencé à m'écrire des lettres. Cela me rappelle ces années où tu étais encore jeune cadet dans l'armée. Nous avions 18 ans, nous venions de nous rencontrer. À l'époque, nous n'étions séparés que lorsque tu partais pendant ces entraînements d'été, et ça ne durait pas si longtemps, 2 mois tout au plus. Il n'y avait alors aucun autre moyen de communication que la poste. Pas de téléphone, pas de SMS, pas de messages vocaux. Seulement la poste et tes lettres écrites à la main. Je les ai toutes gardées. Nous étions si jeunes, la vie était devant nous. J'espère que la vie est encore devant nous et qu'elle sera très longue. Paris est désormais si loin de Kiev. L'avion jusqu'à Varsovie et puis le train de nuit. Au total, j'ai mis 24 heures pour arriver à toi. Je n'ai pu rester que 10 heures à Kiev, mais 10 heures si intenses à profiter de ta présence. Je n'en avais jamais assez de te voir, enfin d'être avec toi. Si on m'avait dit que je bénirais ces petits désagréments qui viennent avec l'âge, comme les problèmes de genoux, oui tu as raison, qu'ils soient bénis nos genoux tout branlants. C'était merveilleux d'aller se promener sur la descente d'Andrevski malgré l'orage. Nous avons couru nous abriter, surpris par cette violente pluie d'été, nous étions trempés et c'était une joie d'être tout ruisselant d'eau ensemble. Je suis tellement contente que nous ayons refait une photo à côté de l'église où nous nous sommes mariés. En ce moment, je la regarde sur mon téléphone et je souris toute seule. Ça y est, après cette si courte parenthèse hors du temps, je suis de retour en France. Les enfants étaient si contents des bonbons que tu leur as achetés. Tu sais à quel point tu leur manques. Tu sais aussi à quel point ils te réclament. Ils veulent que tu nous rejoignes ici à Paris. Hier, c'était le spectacle de la chorale de nos filles. Tous les parents étaient réunis dans la cour pour admirer leur petit chanteur. Je me sentais si seule dans la foule sans toi. Ils étaient tous venus à deux, même ceux qui sont divorcés. Je sais que je dois être forte pour deux, mais parfois j'ai envie de pleurer à l'idée que tu manques tous ces beaux moments, que tu ne vois pas grandir nos enfants. Je suis contente d'avoir été là pour eux et pour toi. C'était moins une ce jour-là, car je revenais de Strasbourg pour le boulot et beaucoup de trains étaient en retard ou annulés. C'est drôle tout de même. C'est la guerre en Ukraine, mais nos trains sont toujours à l'heure. Un peu comme si notre bonne vieille compagnie ferroviaire avait été dopée avec tous ces bombardements. En France, les trains sont assez rarement à l'heure. J'ai fait des vidéos des filles qui chantent, je te les ai envoyées. Comme ça, tu en profiteras un peu, toi aussi. Samedi prochain, il y aura la kermesse. Les parents s'occupent des stands. Laura m'a dit qu'elle avait parlé de toi à tous ses camarades. Elle leur dit constamment à quel point elle est fière de toi. Je sais combien il t'est difficile d'être là où tu es. Je sais combien tu détestes attendre. Tu sais que moi aussi je déteste attendre. Et pourtant la vie est devenue cette longue attente. Attendre de te revoir, attendre de ressentir à nouveau ta chaleur, attendre que tu me prennes dans tes bras, attendre de voir le sourire sur ton visage quand tu me regardes. Attendre, toujours attendre. Sois prudent et prends bien soin de toi. Je veux te revoir bientôt et en sécurité. Bisous, Victoria.
Bonjour mon amour, j'espère que tu as bien dormi. Aujourd'hui, je me suis levé à 5h30. Tout était calme. Je me suis fait un café et j'ai regardé le jour se lever. J'entendais le bruissement des feuilles dans les arbres ou bien ce sont mes souvenirs qui bruissaient. Des oiseaux, un concert de 1000 voix. Ils avaient été encore plus matinaux que moi. J'avais l'impression petit garçon dans Le vin de l'été, ce roman de Ray Bradbury, Dandelion Wine. C'est le titre en anglais, cela veut dire le vin des pissenlits. Il paraît qu'on peut obtenir du vin en extrayant une liqueur de ces pissenlits dorés de l'été. Ce matin, comme le petit garçon du roman, j'étais prêt à enfiler mes baskets et aller courir à travers les collines, en volant, sans sentir mes pieds toucher le sol. Mais non. Au lieu des baskets légères, j'ai dû enfiler mes bottes militaires, si lourdes. J'ai réalisé que de toute façon, je serais bien incapable de courir à cause de ma blessure au genou. Oh, Divchenko, j'ai tellement de souvenirs. J'ai l'impression que depuis le début de cette guerre, tout me revient très précisément, y compris tant de petites choses que je croyais avoir oubliées. Je me souviens à quel point on se sentait bien ensemble tous les deux. Je me souviens aussi que parfois je t'ai blessé, volontairement ou involontairement, je le sais. Tu as le droit de ne plus être amoureuse de moi. Mais s'il te plaît, non, ne me quitte pas. Je sais le but de ta manœuvre. L'amour fait parfois appel à un peu de manipulation. Je sais très bien pourquoi tu as déposé une demande de divorce. Tu veux me forcer à m'éloigner de cette guerre, pour m'obliger à revenir auprès de toi et de nos enfants, encore si jeunes. Oui, c'est une manipulation. Mais une manipulation qui en dit tellement sur l'amour. Maintenant, je le comprends. Il faut parfois perdre quelque chose pour sauver autre chose. Oh, Divchenko, je me souviens quand je me suis enrôlé le printemps dernier. J'étais alors bien loin de la ligne de front. Nous avions des sessions d'entraînement dans la chaleur de l'été et le chant des oiseaux était ponctué par les sons des explosions de grenades et des tirs de mitraillettes. Cela faisait une drôle de musique, ce rythme. À l'époque, des missiles avaient touché le centre d'entraînement. J'ai eu de la chance. Je n'y étais pas. À ce moment-là, la peur était loin. Elle ne m'avait pas encore saisi de ses doigts crochus. Je crois que tous les officiers, comme moi, nous étions dans ce drôle d'état un peu romantique, celui que connaissent les soldats qui n'ont pas encore senti l'odeur de la poudre, l'odeur du sang de la guerre, avec de vrais ennemis. À l'époque, tout le monde brûlait d'aller au front, ou au moins d'aller se frotter à un peu d'action. Et la plupart y sont allés. Tu sais, mon chef à l'Académie nationale de l'armée de terre, un lieutenant-colonel quinquagénaire que je respecte énormément, m'en a parlé. De tous ces jeunes lieutenants, fraîchement diplômés, qui sont partis directement au front. Il m'a dit, je déteste aller dans les cimetières. Je déteste voir tous les parents, les amis, les proches. Et puis, il a continué, expliquant qu'il n'y avait rien de pire que de se lever à 3h30 du matin et, dans les insomnies blafardes et obscures de l'aube, revoir les yeux brillants de ces jeunes lieutenants qui ont disparu à jamais. Il reçoit tellement d'appels. Il doit trouver des photos. Les photos de ceux qui sont tombés au front. Il y en a tant. Comme il est reconnu pour ses talents de photographe, c'est lui qui fait les photos pour les papiers d'identité des officiers. Il m'a parlé d'un jeune lieutenant, un beau garçon, un peu trop conscient de son physique avantageux, qui réclamait d'être photographié sous tel ou tel angle. Le garçon lui a confié qu'il avait très peur de partir au front. Il répétait qu'il était persuadé que c'était fini pour lui, qu'il ne reviendrait jamais vivant. Mon commandant s'est récrié, a protesté. Mais pourquoi dire des bêtises pareilles? Il était un officier excellent, l'un des meilleurs cadets de sa promotion d'infanterie. Il allait bien entendu se débrouiller, pour lui-même, pour ses gars. Le lieutenant-colonel lui a conseillé d'écouter les vétérans, les vieux de la vieille. Avec tout cela, il reviendrait, c'est sûr. Mais un mois après, la notification de décès est arrivée. Et, encore une fois, mon commandant a dû choisir une photo du beau et jeune lieutenant. Une photo d'adieu. Tu sais, il m'avait dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il devait prendre du whisky ou des médicaments pour réussir à arracher quelques heures de sommeil. Mais rien n'y faisait. Les photos des jeunes lieutenants, fringants et beaux, continuent à s'aligner sur les tombes des cimetières. Ah, et puis il y avait aussi cette jeune femme officier, toute désorientée. Il lui avait dit, mais arrange-toi un peu, coiffe-toi. Mais pourquoi, avait-elle répondu. Eh bien, pour te faire une jolie photo d'identité d'officier, voyons. Elle a soupiré, a soufflé. À quoi bon? Tout va brûler là-bas. Et effectivement, tout a brûlé. Elle avait raison. Elle est morte aujourd'hui. Ma chérie, je promets que la prochaine fois que je t'écrirai, j'arrêterai de parler de toutes ces choses aussi tristes. On ne parlera que de nous, de toi, de notre famille. Je veux être avec toi de toutes mes forces. De toute façon, je sais que même si nous rompons, nous serons éternellement amants. Bon, je n'ai absolument pas envie d'une rupture. C'est une blague, une petite blague, comme toutes les blagues que je fais. Je t'en ferai encore plein des blagues. Promis, tu les écouteras et nous rirons ensemble. Je t'aime et il me tarde de te revoir. Pavlo.
Mon cher Pavlo, je pensais être enrhumé, mais je pense que j'ai un truc plus grave. Je tousse et je n'arrive plus à respirer correctement, comme si j'étouffais. Je crois que je n'arrive pas à me remettre sur pied à cause du boulot. Je suis obligée de partir en déplacement quasi tous les jours, toujours dans un autre endroit, un autre pays, pour traduire des colloques et des conférences dédiées à l'Ukraine. Je suis épuisée. Tu sais à quel point j'adore mon travail, mais là, franchement, je n'y arrive plus. C'est idiot, mais j'ai une peur atroce de mourir d'une pneumonie, comme ces héroïnes des romans que je lisais adolescente. Je sais, ma peur de mourir est totalement stupide à côté de ce que toi et tes camarades vivaient. Mais tu sais, comme j'ai la responsabilité de nos 4 enfants, la pensée de la mort, de ma mort, me hante. Tu connais ce très joli proverbe ukrainien ? Tes propres habits sont ce qu'il y a de plus proche de ton corps. C'est ce sentiment que tu as si bien décrit dans ton roman Le Coquelicot. Nos sentiments personnels, amour, haine, trauma, prennent toujours le dessus sur des événements qu'on ressent comme plus distants. Une guerre, par exemple. Sauf si on est personnellement touché par l'événement en question, la nature humaine fait que la priorité est notre vie, avec ses drames et ses joies. Certains ont cru que ton roman était sur la guerre, alors que pas du tout. Tu racontais comment les gens continuent à vivre sans se préoccuper de ce qui se passait sur le front à l'Est dès 2014 dans le Donbass. Tu sais, à une conférence où j'étais interprète, une intervenante française est venue me voir à la pause. Elle voulait absolument parler à quelqu'un d'Ukrainien, je crois. Elle se demandait pourquoi personne n'avait prêté attention à l'annexion de la Crimée en 2014. Cela la torturait. Si le monde avait réagi, s'interrogeait-elle, les choses auraient-elles pu se passer différemment? Je l'ai rassurée en lui disant que, hélas, même en Ukraine, beaucoup de gens ne faisaient pas vraiment attention à ce qui se passait dans l'Est à l'époque. La zone en guerre ne représentait que 10% du territoire. Elle menaçait les vies de certains, mais pas de tous. Ce n'est que parce que l'échelle de la guerre a changé que, brutalement, tout le monde a pris conscience de ce qui se jouait. Tu sais ce dont j'ai le plus peur ? Que ce mal russe continue à se répandre en toute impunité. Je suis à l'hôtel. Je viens de revenir d'une conférence sur les familles de personnes portées disparues. C'était terrible. Juste avant la conférence, j'ai été prise dans un horrible orage. Je ne sais pas si c'était à cause des choses que j'entendais, que je traduisais en direct, si c'était à cause de l'épuisement, de l'orage, mais pour la première fois de ma carrière professionnelle, ma voix a tremblé quand j'ai traduit. Les familles qui cherchent des disparus. Tu te souviens d'Ior Misiak, ce jeune auteur talentueux dont je m'occupais dans l'agence? J'étais tellement contente d'avoir trouvé un éditeur pour son nouveau roman, L'usine, l'an dernier. Il y avait eu un événement organisé pour le lancement en octobre 2022 et il était rentré du front pour y assister. 6 mois plus tard, Ior a été porté disparu. Nous l'avons recherché avec sa femme pendant 1 mois et demi avant d'apprendre qu'il était mort. Tu imagines ce que doivent traverser ceux qui recherchent encore leur aimé 7 ans après la disparition. Une femme était dans cette situation. Elle expliquait que le plus difficile pour elle, c'était de savoir quoi dire à sa fille qui continuait à lui poser cette question. « Maman, quand reviendra-t-il, papa ?» Je comprends tellement son désarroi. Moi non plus, je ne sais que répondre à Lucas, notre petit Lucas, qui me pose la question sans arrêt tous les jours. Quand est-ce qu'il revient, papa? Le fait d'être incapable de donner une réponse claire à un enfant ne l'aide pas à avoir confiance en ce monde. Heureusement qu'il peut te parler en vidéo de temps en temps. Mais tu le sais, rien ne peut remplacer ta présence physique. Je pense aussi à ceux qui sont revenus de captivité. Il y avait une femme dont le mari avait été capturé dans l'usine d'Azovstal à Mariupol. Il avait perdu 50 kilos. Il avait été torturé. Cet homme a perdu tout désir sauf celui de manger. Pendant la journée, il ne dit pas un mot. Il ne parle plus que la nuit, de longs monologues décousus. Sa femme a découvert récemment que son fils écoutait son père toutes les nuits. Le petit a sculpté une figure sans jambes d'un camarade de son père. En général, j'essaie de garder une certaine distance quand je traduis, pour rester professionnelle. Mais là, je ne sais pas pourquoi c'était impossible. Ma carapace s'est fendue. J'avais l'impression que mon cœur allait éclater. Je n'ai même pas envie de parler de ce que tu as écrit dans ta lettre. Tous ces jeunes cadets de l'académie morts au front. Je ne pourrais même pas exprimer avec des mots cette peur que j'ai en moi. J'ai même peur d'aller prendre les nouvelles de nos amis du front. J'ai moi aussi tellement peur que ces messages restent sans réponse. Je me souviens à quel point j'étais angoissée quand ton ami Tristan est venu de l'étranger pour aider comme volontaire à Mariupol. À un moment, Le téléphone a cessé de répondre. Cela a duré 10 longs jours terribles. Mais finalement, c'était un problème d'absence de réseau. Et enfin, il a répondu. Je pense aussi à ces messages, dit Hormisiac, notre ami poète. Ces messages auxquels il ne répondra plus jamais. Voilà, c'est si important de recevoir tous les matins ton petit Dobrogoranoku, doux réveil. Après t'avoir dit ce qui me consumait, je me sens mieux. Je tombe de sommeil. Bisous, Victoria.
Madivchenko, comment vas-tu? Continues-tu à arpenter les routes pour le travail? Moi, oui. Et si la route en ce moment semble plutôt paisible, parfois elle bifurque sans prévenir. Récemment, je me suis souvenu des endroits où j'étais allé en Ukraine avant cette guerre. Qu'avais-je vu de notre pays, alors? Pas grand-chose. Car pendant ces 15 derniers mois, mes horizons géographiques se sont singulièrement étendus. J'en ai parcouru des routes en Ukraine, le plus souvent des routes de campagne poussiéreuses où la jeep hoquette et tressaute dans les nids de poules, mais aussi des routes goudronnées sinueuses dans les confins du pays, sillonnant des endroits dont je ne connaissais pas le nom, ou des routes glissantes de pluie où ton SUV manque de déraper comme sur du beurre. Dans le village où je suis actuellement, il y a eu un énorme orage la nuit dernière. C'est drôle, car le tonnerre peut se confondre avec le bruit de l'artillerie et des canons en pleine nuit. Mais bon, ce n'était pas vraiment le problème. Ce qui m'inquiétait, c'était plutôt de savoir si le matin, les routes seraient praticables, si la jeep ne serait pas embourbée. Et toute la nuit, ça m'a empêché de dormir. Je me demandais si je devais bouger la voiture dans un endroit plus sûr, moins boueux, un endroit qui me permettrait de m'extirper de là au matin. C'est une déformation professionnelle. Ce genre de tracas, Madivchenko. L'hiver dernier, je me souviens des routes verglacées quand les Russes bombardaient toutes nos infrastructures énergétiques. À l'époque, nous étions moins équipés en système de défense antiaérienne. Alors, à cause de ces foutus bombardements, il n'y avait pas d'électricité dans tout le pays. Il faisait un froid de gueux, partout, dans la rue, dans ton lit, dans ton bureau. C'est-à-dire une pièce carrelée toute blanche d'un centre de transfusion sanguine abandonné. Tes pieds étaient gelés. Tu devais sans cesse essuyer ton nez. Tu avais toujours cette goutte de morve au nez qui pendait tout le temps, agaçante. On avait beau l'essuyer, elle revenait. Parfois, j'avais envie de tout laisser tomber, d'aller courir dans la neige et oublier tout ça, les sessions d'entraînement, la guerre. J'avais l'impression qu'on était en plein chaos. Un chaos dans lequel des dieux impénétrables et indifférents m'auraient projeté, les dieux de la guerre. Bon Dieu, il faisait si froid. Et pourtant, malgré le froid, il y avait toujours le commandant de la brigade, un jeune homme, chevalier complet de l'ordre du mérite, qui allait te convoquer, te regarder avec cet air amer et triste, te reprochant ceci ou cela. Où est le plan? Où en est l'exécution? Comment on va mettre en place ça ou ça? Il utilisait un peu un autre langage, mais le sens général était le même. En vérité, le commandant, et c'est ça le plus désagréable, avait raison de te poser ces questions, avec son air amer et triste. Mais toi, tu ne pouvais pas faire grand-chose parce que tout est interconnecté dans l'armée. Alors tu fermais ta gueule, tu encaissais. Parfois, j'ai l'impression que le chaos, c'est la définition de la guerre. Et nous, les soldats, nous avons cette tâche immense, tenter d'orchestrer ce chaos, d'apporter de la lumière dans l'obscurité. Si on avait eu de l'électricité pendant ce maudit hiver pour faire marcher une petite turbine de chauffage, n'importe quel petit truc pour faire un peu de chaud, mes mains étaient si gelées que je n'arrivais même plus à taper sur mon téléphone. Je toussais et je regardais la buée de mon haleine. Je frottais mes mains pour tenter de les réchauffer. C'est important d'avoir un plan. Mais si tu n'as plus de doigts, les plans... Maintenant encore, alors que nous sommes en plein été, je me souviens de ce froid mordant et de ces routes verglacées avec ces camions à travers. La guerre, c'est décidément une affaire de saison chaude. Nous n'avons pas reçu assez d'armes à temps et je crains que nous ne puissions terminer notre job avant le début de l'hiver. Ce qui va encore rallonger la guerre jusqu'à l'année prochaine. J'espère que nos alliés comprennent que c'est leur intérêt de nous envoyer le plus d'armes possible, le plus vite possible. Bien sûr, aujourd'hui les combats sont cantonnés au territoire ukrainien. Tant mieux pour le reste de l'Europe. Mais cette guerre inhumaine est déjà en train de tout changer. Et donc, me voilà sur la route et c'est l'été. Quand tu conduis et t'approches de la ligne de front, il y a des moineaux postés sur l'asphalte qui s'envolent à ton arrivée. Ou ce sont des enfants blonds qui jouent sur la route tout comme des moineaux. J'ai même croisé une famille de cygnes avec 5 poussins, si gracieux, qui nageaient tranquillement dans une mare. L'été dans le sud de l'Ukraine est merveilleux. Tu conduis et tu traverses des paysages charmants. Des lacs à ta droite, des champs ou un village envahi de verdure. Et cette herbe couleur d'olive qui sent comme le miel, partout. Tu sais que la route qui mène à Zaporizhia s'appelle aussi l'autoroute du soleil comme en France, sauf que celle-là mène direct dans le cœur de la guerre. Je suis également tombé amoureux. Ne t'inquiète pas. Je tombe amoureux de toi tous les jours encore plus, Divchenko. Mais là, oui, je tombe encore une fois amoureux des nuages du ciel ukrainien, ces gros cumulus qui s'entassent à l'horizon de ces côtés lourds, et aussi de ces ravins près des routes, de ces tourbières pleines de roseaux. Au printemps, les marécages sont si profonds qu'ils sont impossibles à traverser, pas seulement pour une jeep, mais aussi pour un char qui s'y noirait. Mais c'est une autre histoire. Ce que je préfère, ce sont les coquelicots le long de la route, ceux qui poussent à travers des champs de blé. Ils me rappellent nos disparus, nos frères morts au combat. Mais ils me rappellent aussi que j'étais, que je suis un écrivain. Mon roman ne s'appelait-il pas Le Coquelicot ? Des villageois sur leurs vélos, des soldats postés devant les maisons des villages, des enfants très jeunes qui fument le long de la route, des enfants qui marchent sous le bruit de la canonnade. Bref. Les enfants de la guerre. J'ai l'impression d'avoir tant voyagé, d'avoir tant vu pendant ces 15 mois de guerre, comme si j'en avais plus appris sur mon pays, l'Ukraine, que dans toute ma vie d'antan. Je pourrais te parler si longtemps de la beauté de l'Ukraine, mais je préfère conclure en parlant de ta beauté, mon cœur. Je t'aime, Pavlo.
Mon cher Pavlo, quand je lis tes lettres, je ne peux m'empêcher d'admirer ta façon de voir le monde. Même tes images de la guerre recèlent une certaine beauté. Je crois que j'étais une personne très optimiste. Je le suis toujours. Mais après l'invasion, j'avais l'impression d'avoir perdu ma faculté de voir la beauté dans la vie. Il a fallu un an avant que je recommence, tout doucement, à ouvrir les yeux. Après avoir perdu maman, quand j'avais seulement 15 ans, tout me semblait très relatif. À côté de la mort, tous ces petits tracas de la vie ne valent pas le coup de se torturer. Tu te souviens de cet automne où nous nous sommes rencontrés? Nous aimions nous balader dans le parc Marijinski à Kiev. Je me souviens des feuilles mortes, mordorées, que les jardiniers avaient soigneusement entassées. On discutait et soudain, j'étais prise d'une impulsion irrépressible. J'ai sauté dans ce tas de feuilles rouges et jaunes. Je me souviens encore de ma joie, de ce son mélodieux des feuilles mortes qui crissaient sous moi. Je les frappais en l'air, elles volaient et c'était joli. Tu as cru que j'étais folle, je crois. En tout cas, tu ne m'as pas suivie. Ce printemps, je me baladais avec Laura et je voyais qu'elle suivait obstinément quelques feuilles mortes qui virevoltaient devant elle. C'est drôle. Car à Paris, quelle que soit la saison, tu peux toujours trouver quelques feuilles mortes au coin d'une rue. En la regardant pour chasser les feuilles, ça m'a frappé. Elle faisait exactement la même chose que j'avais l'habitude de faire. Elle poursuivait ses quelques feuilles mortes avec le même enthousiasme, le même bonheur innocent qui venait du plus profond de son cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu comme une révélation. J'ai réalisé que depuis l'invasion, j'étais en mode survie. Je m'interdisais de ressentir toute joie de vivre. L'exil, la séparation avec toi, mes soucis quant à la gestion familiale de nos quatre enfants, toutes ces incertitudes, ça m'avait transformé en robot. Aujourd'hui encore, ça m'est difficile d'exprimer mes émotions, même envers toi. J'ai du mal à me faire de nouveaux amis. Je crois que j'ai trop peur de perdre quelque chose d'important. Alors, je préfère ne pas m'attacher. Ou bien, je n'arrive pas à m'attacher car je n'arrive plus à faire confiance à quiconque, à faire confiance au monde. Je dois à nouveau réapprendre cela. Alors j'ai décidé de m'y remettre pas à pas, d'avoir conscience de ces moments furtifs de bonheur, les enregistrer, les mémoriser. Un matin, j'ai emmené Lucas à la crèche et quand j'ai ouvert la porte de l'immeuble, un rayon de soleil a coulé sur mon visage. J'ai soudain senti de la joie en moi et je me suis forcée à m'arrêter, à ressentir cette joie pour un moment et à en profiter, à m'en souvenir. Maintenant, chaque soir, j'essaie de collectionner tous ces petits moments de la journée, ces minuscules fragments lumineux de bonheur. Ça peut être ce moment où j'ai lu ta lettre, celui où je cuisinais pour les enfants, cet appel d'un ami ou juste ce gros câlin avec les enfants. Et ensuite, je m'endors, pleine de gratitude envers le monde. Oui, nous avons des souvenirs si doux de nos escapades en Ukraine. Mais je ne veux pas vivre seulement avec des souvenirs. Nous devons nous en créer de nouveaux. C'est vrai, j'ai peur de rêver du futur. Pourtant, je t'assure, j'attends que se tourne une nouvelle page pour nous. Il y a quelques instants, Lucas est passé devant la chambre des filles avant de venir me voir et je l'ai entendu dire « Les filles, je vous aime !» Et c'était de l'or. Un moment de pur bonheur. Et avec ce miel-là de pur bonheur, je te souhaite une bonne nuit. Bisous, Victoria.
Chers auditeurs, voici donc 6 lettres parmi celles que Pavlo et Victoria nous proposent, tout aussi touchantes les unes que les autres. Nous vous invitons bien sûr à les découvrir. En conclusion, nous choisissons la toute dernière phrase de ce livre. Elle est de Victoria. Merci aux forces armées ukrainiennes qui se battent pour le pays où je peux retourner. Nous ne pouvons que le souhaiter avec elles. Les lectures étaient faites par Patrick et Monique. La partie technique était assurée par Claude Michel. Nous avons entendu le début de La chanson pour l'Ukraine de Sebi et des extraits des Cordes et voix magiques d'Ukraine. Au revoir.
Chers auditeurs,
Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G.